Cause toujours. Série d'été. Cause toujours, l'émission qui donne la parole aux anciens. Histoire, anecdotes, souvenirs, Jeanne Blanchard est allée tendre le micro aux résidents de la maison de retraite de Crozon. Les pattes du bout du monde.
La vieillesse, ça n'apporte pas que du beau. Ouais.
Et alors tout ça, vous avez enregistré, Mana, et tout ce que j'ai dit.
Oui.
Eh ben, c'est pas bien.
Où est-ce que vous avez grandi?
J'allais draguer. C'est pas ça que vous avez dit?
Non, où est-ce que vous avez grandi?
Aujourd'hui, rencontre avec les habitants et habitantes du bout du monde autour de l'eau. Édouard et Jeannette nous parlent de l'eau sur laquelle on navigue, celle dans laquelle on nettoie. Celle qui nous tombe sur la tête, celle qu'il ne faut pas gaspiller, et celle que l'on chante parfois.
À 17 ans, j'étais parti en Égypte. J'ai navigué, quoi. Mais là, bon, j'ai navigué, navigué. Une drague, ça navigue pas beaucoup. Hein. C'est une grosse péniche de débarquement qui avait été transformée en drague suisseuse. J'ai embarqué, on m'a fait embarquer là-dessus. De là, on est parti en Égypte pour percer le canal Farouk, quoi. C'est un canal qui partait du canal Suez, qui faisait un demi-arc de cercle pour rejoindre le canal Suez des kilomètres plus loin. Oui, j'ai été ça en Égypte, j'avais 17 ans à l'époque. Et le temps a passé, puis j'ai embarqué la compagnie de navigation d'Orbigny. Là, c'était l'Amérique du Sud. À 19 ans, je me suis trouvé là-bas. Après, je suis parti à la Dreyfus. Alors là, c'est tous les pays.
Édouard a des cheveux blancs et des yeux bleu clair. Clair comme peut l'être la mer ici en Bretagne. Édouard a traversé les océans pour la marine marchande. Il a ainsi passé une grande partie de sa vie sur l'eau, mais aussi parfois sous l'eau.
J'ai eu des bons moments avec des bons copains, quoi. J'ai eu des bons copains aussi, au commerce. J'ai eu des moments durs aussi. On partait Anvers, Belgique, là. Puis on allait en Amérique du Sud, 21 jours, 27 jours. Le plus long, c'était 27 jours. Tout dépendait de l'état du temps, de la mer. Oh, je l'ai vu de toutes les couleurs. Du beau temps, du mauvais temps, la brume, la neige, la glace, la pluie.
Vous avez eu peur des fois, dans les tempêtes?
Au cours d'une vague, c'est les rates. 17 mètres de creux. Une montagne d'eau de 17 mètres qui monte devant vous comme ça. Mais là-bas, elle monte. Vous vous demandez, mais jusqu'où qu'elle va aller, c'est là. Et puis, quand elle va déferler sur le pont, là, on va être englouti avec ça. Non, le bateau, hop, il a monté aussi, heureusement. Quoi. Mais ça fout la pétoche. Hein. Ils appellent ça les vagues, c'est les rates. Hein. Non, le plus en. Oui, il y a ça, et puis. La crête. La crête, c'est quand on passait le triangle des Bermudes. On l'a passé 4 fois. Tout le monde avait le trouille, avait la peur. Il était inquiet, quoi. C'était normal.
Pourquoi c'était quoi le triangle des Bermudes?
Les disparitions, les bateaux et les avions, sans savoir pourquoi. On ne sait pas encore pourquoi. Oui. Une fois, on nous avait demandé de surveiller, de doubler la surveillance, parce qu'il y a un bateau qui a disparu. On a regardé, mais on n'a rien vu. Non. Et puis, on n'est pas resté arrêté là. Hein. On a dégagé de là le plus vite possible. Et une autre fois, je marchais sur le pont comme ça. Ça, c'était un autre voyage, au triangle des Bermudes, d'accord. J'ai vu un quadrimoteur, c'était un ancien avion de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait un moteur arrêté sur ses quatre. Je voyais bien son hélice qui ne bougeait pas. Sans doute pour économiser le carburant, sans doute. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'avait aucune immatriculation sur sa carlingue. ni sur les ailes, aucune immatriculation. Et il était peint tout en noir, tout entièrement en noir. Il a fait une fois le tour du bateau, au ras de la mer, et puis hop, il a disparu. Tous les équipages n'étaient pas tranquilles. On a dégagé de là le plus vite qu'on a pu. Quoi. C'est pas, c'est bizarre, c'est incompréhensible. Une histoire de fou. Ouais. On a eu un peu tout, la brume, la neige, la pluie, tempête, beau temps, calme et plat. On a eu toutes sortes. On passait l'endroit le plus chaud du globe, c'est l'équateur. Ah oui, une fois pour aller, une autre fois pour revenir. À côté de l'équateur, là, on appelait ça le poteau noir. Ça, c'était la pluie. Les grains, ouais. Quand on avait fait la peinture sur le pont, repeindre le pont pour être propre, on évitait justement tous ces grains, hein, pour pas que l'eau tombe depuis dessus la peinture toute fraîche. Le poteau noir, ça s'appelait ça. Une fois de l'année, il était à côté. On l'avait avant d'arriver à l'équateur. Une autre fois, c'était après avoir passé l'équateur. Il était à cheval sur le... C'est comme ça, quoi. Bon, à l'Antille, on se jette à l'eau, quoi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Je vais pas me tromper, je sais pas. Allons-y, on va voir. Au cours de cette terrible guerre, dont on vous a souvent parlé, de ces pauvres marins en croisière, sur l'océan plein de dangers. Mais ce que l'on n'a pas su vous dire, écoutez-moi bien mes amis, que leur rire n'était qu'un délire, un supplice n'est jamais fini. Quand on descend le soir, qu'on veille au beau soir, dans la tempête, guettant le sous-marin qui ce soir ou demain nous coulera peut-être. L'on n'est jamais gai, car dans notre métier, dans la marine, l'on meurt sans savoir d'une torpille un soir ou d'une mine. Quand vous me voyez en toilette, portant fièrement le col bleu, civil vous songerez peut-être encore un qui fait le gommeux. Si vous avez cette pensée, sur mon bateau suivez-moi donc, vous changerez vite d'idée le jour où l'on fait le charbon. Quand on descend le soir sur le cargo noir, dans la poussière, sans trêve ni repos, faut continuer le boulot, la nuit tout entière. Sans même se laver, faut appareiller dès que l'on termine. La nuit comme le jour, elle travaille toujours la marine. Mais tout cela n'est rien encore. Le plus terrible est de rester bien loin de tous ceux que l'on adore, sans jamais pouvoir les embrasser. Aussi à la fin de la campagne, le navire entre enfin au pays. L'on voudrait revoir sa compagne, pas moyen car l'on est puni. Quand on descend le soir dans son cachot noir, le marin pleure. À 20 ans parfois et sans savoir pourquoi, l'on souffre et l'on meurt. Rien que pour avoir fait tout en s'engageant une bêtise. Vous qui m'écoutez, ne faites jamais cette sottise.
Ha ha ha.
on consommait de l'eau, mais on était rationné parce qu'il fallait la garder le plus longtemps possible pour, quand on rejoignait un port, pour refaire le plein. Et là c'est un tout petit bateau citerne qui venait le long du bord pour nous ravitailler en eau, quoi. Bon, mais c'était transporté dans une citerne à bord de notre bateau à nous, quoi. On était 38 hommes d'équipage à l'époque. Là. Maintenant, c'est des équipages réduits. Hein. Et puis, il y a des bouilleurs, ils ont installé des bouilleurs à bord des bateaux pour transformer l'eau de mer en eau douce. Si bien que là, il n'y avait plus aucune raison de rationner l'eau. On en avait à volonté, quoi. Voilà.
Si Édouard a passé sa vie sur l'eau, Jeannette, elle, est restée les deux pieds bien ancrés sur terre. Mais sur terre, la question de l'eau potable, elle se pose aussi. À l'époque, il n'y a pas l'eau courante. Jeannette se rend donc régulièrement à la fontaine du Unique, située entre la plage de Morgat et le bourg de Crozon.
Je l'ai toujours connue. Lorsque nous étions petits, nous allions jouer là-bas. Et il y avait les dames du quartier et même des dames de plus loin qui venaient laver leur linge. Il y avait la fontaine et le lavoir. Elle était bien, elle était pas sculptée comme certaines fontaines, mais il y avait une eau claire et limpide qui venait comme ça. Et elle était très bonne. On buvait de l'eau vous savez, en jouant, on avait soif, on venait. Et comme ça, avec la main, on se rafraîchissait, oui.
Et alors, ces corvées d'eau, vous les faisiez quand?
Ben, le jeudi, ou souvent après la classe, quand on avait fini les devoirs, oui. Nous n'avions pas d'eau courante à la maison, nous avions un puits, et donc on allait au Unique, on avait un broc de chaque côté, et on prenait de l'eau, là, à la fontaine, oui. Et après, mes grands-parents avaient un terrain sur la rue Alsace-Lorraine. Et là, il a trouvé une source. On a mis une pompe et nous avons eu de l'eau et ça a ravitaillé tout le quartier. Je ne me rappelle plus en quelle année nous avons eu l'eau de la ville. Je ne sais pas.
Moi, je crois avoir vu que l'eau dans le bourg de Crozon, il arrivait en 56.
En 56.
C'est ce qu'on m'a dit.
Oui. Je me rappelle de voir les ouvriers faire les travaux chez nous, mais l'année, je ne me rappelle pas. Vous savez, c'était beaucoup plus facile quand même. Oui. Malgré que la source que mon grand-père avait trouvée où il y avait une pompe, eh ben nous y allions quand même.
Pourquoi?
Eh ben parce que nous aimions cette source-là. Voilà. On avait toujours de l'eau très fraîche. Il fallait traverser la route, traverser un champ et arriver à la pompe. Et après, mon père a fait un petit lavoir pour ma mère et elle venait laver son linge là. Oui. Et les gens du quartier, des fois, nous demandent des services. S'ils pouvaient venir aussi, on acceptait. Oui. Même le directeur de l'école envoyait ses élèves chercher des bassines d'eau le soir après la classe. Oui. Je me rappelle très bien de les voir. C'était pas léger, les bassines d'eau comme ça. Non. J'allais déjà là au lavoir avec ma mère. Et puis après, le jeudi, quand on n'avait pas classe, on y allait aussi. On aidait, vous savez, le mieux qu'on pouvait. Et puis on se retrouvait à plusieurs enfants, alors on s'amusait comme ça. Il y avait des grands champs, des champs de landes, des pâturages, il y avait des bêtes aussi, là, des vaches. Et on jouait à cache-cache ou on jouait, vous savez, avec un rien, on s'amusait avant.
Oui. Et vous jouiez avec l'eau aussi?
Ah non, Non. Et on faisait attention de ne pas abîmer le linge qui était sur l'herbe au soleil. Les mamans nous disaient toujours « allez jouer plus loin ». Le lavoir, c'était un grand rectangle et le dessus du lavoir était en pente pour que l'eau sale glisse quand on frottait le linge. Et à côté, il y avait le petit lavoir où on rinçait tout. On utilisait le savon de Marseille, ah oui, et de la lessive aussi. Et après, il y avait un petit muret sur lequel il y avait un trépied. On mettait les lessiveuses à bouillir là. La lessiveuse, eh ben, c'était en zinc, c'était un grand paquet, et on mettait le linge et l'eau et on les faisait bouillir pour que les draps étaient impeccables. Hein. Je vous assure, c'était la blancheur. Et s'il n'était pas venu propre, s'il était resté une tache, on mettait le linge sur l'herbe pendant toute l'après-midi. Et le soir, le linge était propre. J'ai toujours vu ma mère faire ça, oui. Des taches de fruits ou des taches difficiles à faire partir, on les mettait au soleil, oui. Nous autres, par exemple, nous venions du carrefour de la route de Morgate. On descendait tout du long la route du Ginic et on était au lavoir. Le plus dur, c'était de repartir. Et pour remonter avec nos chargements d'eau, c'était dur. Je me rappelle que ma mère avait peur que je me fasse du mal parce que le linge mouillé était dans la brouette pour venir le faire sécher à la maison. Et ma mère montait la côte avec la brouette et me la donnait après sur le plat. Oui, on faisait très attention, oui.
Et alors, pas d'hommes au lavoir?
Ah non, quelques-uns venaient chercher leur dame parce que c'était trop lourd la brouette. Ils aidaient comme ça. Mais jamais je n'ai vu un homme à genoux dans une caisse, la caisse. On appelait ça la caisse. Je me rappelle de voir mon père faire une caisse et ma mère mettait un coussin dedans avec des ripes. Donc ça faisait moins mal aux genoux que d'avoir comme ça directement sur la planche.
La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit qu'on papotait beaucoup entre femmes là-bas.
Ah ben oui, vous savez, ça y allait. Bon, on était habitués, on ne faisait pas de cas. On avait les nouvelles comme ça, on disait Radio Lavoir.
Qu'est-ce qu'on racontait là-bas?
Un peu de tout. Des fois peut-être trop.
Au lavoir. Derrière le lavoir, un tissu dans la poussière a été laissé par une ménagère sans le savoir. C'est que l'indice sur le chemin lui fit du tort. Le linge brillait fort aux yeux des riverains. Elle est curieuse, dans le peu d'ombre du midi, elle s'en éloigne, c'est une culotte masculine. Elle est furieuse, dans leur bassesse, leur perfidie, elles en témoignent, cette ménagère est une coquine. Tout le monde sait qu'elle n'a ni père, qu'elle n'a ni frère. C'est presque sûr, la culottée de son amant, elle, tête haute, ne nie pas, étonnamment. C'est que la fille, dites-vous, qu'elle ne manque pas d'air, toute seule dans le lavoir, quand elle frotte, elle pense à elle et lui, quand il trotte, quand il trotte, quand il trotte.
C'était Cause Toujours avec Jeannette et Edouard. L'émission Cause Toujours a été réalisée et enregistrée par Radio Évasion à l'EHPAD de Crozon. Merci aux habitants et aux habitantes de nous avoir partagé ces extraits de vie. Merci à Pélagie, Léna, Ève et Caroline de m'avoir menée de ces couloirs labyrinthiques jusqu'aux histoires des résidentes. À bientôt sur Radio Évasion.